parentalité,
grossesse,
parentalité,
famille,
blessure,
travail,
disfamilité,
accouchement,
travail,
grossesse,
maladie,
maternité.
Mama, le podcast des maternitants.
Bonjour et bienvenue à l'écoute du 6e épisode de notre podcast Mama. Dans nos deux derniers épisodes, vous avez pu entendre le début de l'intervention des maternitantes lors de la rencontre nationale des collectifs d'intermittents et précaires qui s'est tenue à Saint-Étienne le 27 août 2020 et qui s'intitulait « Maladie et maternité, un nécessaire combat pour le droit des plus précaires ». Voici la suite et la réponse à la question restée en suspens par Élise et Amandine. Bonne écoute.
Non, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, quel est l'intérêt en fait de la CPAM en fait. Pourquoi il y a autant de problèmes et qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un enjeu derrière ou quelle est la raison?
Oui, il y a un enjeu économique.
On va justement passer là.
C'est le côté obscur de la force.
Ouais, c'est le côté obscur de la force.
C'est complètement en lien avec ce qu'on a vu, c'est un enjeu complètement économique. En fait, les CPAM sont des structures de droit privé avec une gestion privée. Ça veut dire qu'elles sont gérées par ceux qui sortent de l'école, la haute école de cadres de la sécurité sociale, qui donc deviennent des cadres qui managent une agence. Et donc les cadres, ils ont des objectifs de rentabilité, des objectifs d'économie pour ne pas perdre trop de sous. Ils doivent calculer ça comme ça. Et donc, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des consignes interne et absolument pas transparente, absolument pas officielle. Donc, c'est pas la loi qu'on peut trouver sur les Gifrance, que nul n'est censé ignorer. C'est des petites consignes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des agents qui nous disent « Ah, mais non, mais c'est plus comme ça que ça marche maintenant. Maintenant, là, depuis 3 mois, maintenant, on compte que les mois où l'assuré n'a pas du tout travaillé si on veut déduire les jours chômés. Hein? Mais d'où sort cette loi? Ah, bah, si, c'est une loi. Mais donne-nous le texte. Ah, non, mais c'est une loi. Voilà. Puis, il nous donne jamais le texte.
Ça, c'était en janvier. On a eu ce problème-là. Alors, ça commence par un dossier d'une CPAM. On se dit, OK, c'est un agent qui s'est raté. Bon, voilà. 2 CPAM touchées. 3, 4, 5, 6, 7.
Et sur tout le territoire.
Sur tout le territoire. Là, on fait, OK, il y a un truc qui bug. Donc, dans ces cas-là, nous, on essaye de se renseigner. Personne ne nous donne le texte. On se tape quand même le plan de loi finance sécurité sociale de 450, 600 pages, etc. pour essayer de voir. Putain, il y a un truc qu'on a raté, encore une fois, on n'a pas vu. Les filles, en fait, pour vous donner une idée, celle qui touchait tout à l'heure 12 euros au lieu de 72 euros, elle a été touchée par ça. Ne déduire les jours chômés indemnisés par Pôle emploi que des jours où on a entièrement chômé chez un intermittent, ça n'existe quasiment pas. On a forcément bossé au moins un jour dans le mois. Donc, tous ces jours-là, du coup, ils divisaient pas, ils les enlevaient pas du diviseur. C'était divisé, du coup, si tu avais un mois chômé, par 365, moins 30, c'est pas 200 ou je sais pas quoi, d'accord?
On a fait un peu de grabuge, et résultat, ça a dû remonter, enfin voilà, on a un peu râlé, un peu contesté, on a fait des communiqués, et un jour, il y a un agent qui écrit « Ah oui, en fait, la loi que je vous disais, elle a été annulée la semaine dernière. »
Fin février.
Voilà. Mais c'est un texte qui n'est jamais... paru, enfin, c'est ça, c'est pas un texte officiel. Donc ça veut dire que c'est... ce qu'il appelle loi, ou enfin c'était une consigne interne.
N'ayant pas force de loi.
Voilà, à laquelle on n'a pas accès.
Et ce qu'il faut dire, c'est que du coup, les CPAM sont certes des organismes de droit privé, mais censés quand même gérer effectivement certaines adaptations, etc. Mais c'est pas la direction de la sécurité sociale qui, elle, décide des textes réglementaires. Les CPAM...
Le ministère,
en fait. La consigne, on ne savait même pas d'où elle venait. Visiblement, elle venait d'un point national, peut-être de la direction des CPAM. On n'a jamais vraiment su. Il y a même une agent, il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a des caisses qui sont en retard. Tout a été réglé, sauf du coup, 2-3 caisses qui arrivent en ce moment, et puis ils font « Ah, au fait, non, ça recommence. » Et il y a même une dame qui nous a dit « Mais enfin, comment vous pouvez être au courant? C'est des textes réglementaires, internes, on sait ce qu'on dit, vous ne pouvez pas être au courant. » Si, madame, on est au courant, mais alors... vous dire comment on est au courant, parce que l'agent de Lille, Adrien, je sais pas quoi, nous a dit que ce jour-là, que la circulaire avait été enlevée. On ne sait toujours pas de quoi on parle, de quelle circulaire c'est, comment ça se fait qu'elle a été mise en place, comment ça se fait qu'elle a été enlevée, qui a pris cette décision. Personne n'a répondu à nos sollicitations là, au niveau des organismes de direction sécurité sociale, direction de la CNAM, etc., enfin de la CPAM. Personne n'a répondu, mais pourtant le truc a été enlevé. Comme si ça avait été un test.
C'est la même chose avec le plafonnement journalier. On l'a vu apparaître en 2018. Alors, on le voit apparaître à Lille, à Caen, à Marseille. Machin, je dis, tiens, c'est bizarre. Ils nous disent tous qu'il y a un plafonnement journalier. Alors que non, non, c'est pas du tout comme ça. Et on se rend compte que ça monte, ça monte, ça monte. Jusqu'à ce procès à Lille, qu'on a gagné, le verdict est tombé le 22 octobre 2019. Et bah là, du coup, maintenant, bon, il y a encore de temps en temps des CEPAM qui essayent. On dit, bah non, c'est pas possible, mais c'est venu d'un coup. Donc ça veut dire que c'était pas juste, comme tu disais, un agent qui délire. C'était vraiment une consigne. On imagine qu'il y a un manager qui dit, oh là là, là, il faut absolument faire des économies sur ce type d'indemnisation. Ah non, non, mais il faut appliquer un plafonnement, c'est pas possible, on peut pas leur donner tant d'indemnisation par mois pour leur congé. Voilà. Alors que les textes, le texte, la circulaire, on était liés à la rédaction de cette circulaire, elle a pris des années à être rédigée avec des députés, démocratiquement. Voilà, c'est ça le sens de la sécurité sociale, c'est quelque chose de complètement démocratique. Et là, on a affaire à des petits règlements en interne, managériaux, libéraux, juste pour essayer d'économiser 3 sous sur le dos des assurés, quoi.
Et c'est exactement ce qu'elle dit dans la sociale, en fait. C'est le passage de l'ère du politique à l'ère de l'économique, exactement. En fait. Le problème qu'on rencontre, finalement, est assez cohérent, que ce soit entre Pôle emploi, entre la Sécu. Cette justification du trou de la Sécu pour faire passer un tas de lois foireuses et tout, elle est plus valide depuis 2019, parce que finalement, en 2019, c'est là où la Sécu a... devait, on va dire, parce qu'ils accusent les gilets jaunes de... Voilà, on vous expliquera un peu peut-être après. Devait rééquilibrer sa balance, en fait, pour le coup. Donc le trou de la Sécu, bah, du coup, il n'y avait plus de raison spécialement de chercher à faire des économies de bout de chandelle. Sauf que les CPAM, bah, elles ont en fait des objectifs chiffrés. Vous allez regarder l'organigramme de la direction de la Sécurité sociale ou de la direction des CPAM, c'est très intéressant. Les mots qui sont employés sur l'organigramme, c'est-à-dire qu'on a des trucs, je n'aurais pu vous dire à l'heure actuelle, mais allez le voir. On a des gens, effectivement, qui sortent d'école, mais quasiment d'ingénieurs, trucs bizarres et tout. C'est des directions comme marketing, je ne sais pas quoi, direction management, machin, chef de la... Il n'y a plus de chef de... Celui qui est responsable d'expliquer aux assurés, je sais pas, celui qui est chargé de faire en sorte que ça se passe bien. Non, c'est pas du tout ça. Donc ça, c'est un des premiers problèmes qu'on rencontre. Ce qu'on rencontre aussi, évidemment, c'est la formation des agents, mais c'est un peu le même problème qu'à Pôle emploi. C'est-à-dire que à la CPAM et surtout dans les agents d'accueil, notamment, c'est-à-dire là où vous prenez vos renseignements, comme il n'y a pas de texte qui existe sur Internet que vous pouvez trouver, sauf si vous nous trouvez, nous. Si vous allez en agence, les agents d'accueil, et c'est pareil, j'ai une amie qui travaillait pour Pôle emploi à un moment, c'est des contrats précaires, des CDD, qui sont embauchés à l'arrache avec, sur les agents d'accueil. Moi, à Limoges, nous, c'était, elle avait 2 heures de formation et puis il fallait qu'elle était mise en... C'est vraiment en première ligne, quoi. C'est la guerre, t'arrives, t'es en première ligne, tu te prends tous les demandeurs d'emploi qui arrivent à la queue leu leu toute la journée. T'as été formée, genre, 2 heures, j'exagère, mais une journée, je crois pas qu'elle ait eu plus qu'une journée, vraiment. Et tu dois répondre. Et ben, les agents d'accueil des CPAM, c'est pareil. C'est pour ça que moi, je n'en veux absolument pas, évidemment, aux agents, quels qu'ils soient, qu'il faut toujours essayer de rester courtois, gentil. Tout ça, c'est très important parce que c'est pas de leur faute, en fait. C'est comme si vous, on vous mettait deux mains derrière la caisse de la CPAM, puis on vous disait, bah maintenant, ça va, renseigne. Renseigne les droits, même pas, renseigne sur les droits retraite demain, vas-y, c'est bon. Tu sais que la retraite, c'est à 62, mais 63, 64, là. Chut, vas-y, allez, hop. Bonjour, monsieur.
Oui. Plus le turnover, parce que c'est souvent des postes qui restent 6 mois, 1 an, voilà. C'est assez rare maintenant d'avoir des gens qui sont à la CPAM depuis... Enfin, à part certaines CPAM plus locales, apparemment.
On se rend compte que les petites CPAM, par exemple, moi je prends l'exemple du Limousin, parce qu'on n'est pas des grands, en Haute-Vienne, moi ça s'est jamais mal passé depuis 15 ans, mais parce qu'en fait je pense qu'en Haute-Vienne, il y a une nana au niveau de l'indemnisation et des dossiers qui doit être spécialiste en intermittent et qui, du coup, bah, on lui file les dossiers à elle. C'est ce qui s'est passé en Creuse il n'y a pas longtemps pour une autre fille. On lui donne les dossiers, puis c'est elle qui traite. Et le problème qu'on a, bah, c'est que là, en ce moment, par exemple, nous, c'est la misère ces jours-ci, vraiment la misère, je vous jure. Parce qu'à Paris, je ne sais pas ce qu'ils foutent, ils sont tous partis en vacances, ceux qui s'occupaient des intermittents sur les caisses parisiennes en ce moment. Puis malheureusement, c'est là où il y a 50% des intermittents de France. Donc Paris, là, en ce moment, c'est la débandade, quoi. C'est la débandade. Il n'y a pas un dossier qui tombe droit, pas une médiation, cas de réponse, rien. Donc il y a ce problème aussi là d'agent. Et de fait, de ne pas avoir d'agent référent, de ne pas avoir quelqu'un qui n'a pas de texte clair lui-même, qui n'a pas été formé pour les avoir, qui ne sait pas quoi te répondre, qui souvent, quand tu réclames, t'envoie une réponse automatique quand il te répond. Donc, il faut passer par les médiateurs qui sont plutôt efficaces quand ils partent pas en vacances. Et puis, il n'y a pas longtemps, on a doublé, nous, la technique. On change de technique en fonction des actualités, un peu. Pour la circulaire interne, on est passé directement à chaque fois par le circuit médiateur et défenseur des droits. Il faut savoir que quand même, tout bon, bah, nous soutenait, parce que, on ne sait pas ce que ça va donner, mais en tout cas, tout bon, en tant que défenseur des droits sur les matermittentes, a vraiment été très efficace.
On a eu trois jugements de défenseurs des droits en 2010, 2015, 2018 qui ont tranché en disant qu'il y avait effectivement des discriminations dans les textes pour les travailleurs discontinus en cas de grossesse. Donc voilà, et après ils nous soutenaient vraiment, et même maintenant les défenseurs des droits locaux, parce que maintenant il y a des délégués régionaux, en général ils sont assez efficaces, ils sont part du dossier, ils arrivent à faire fléchir la CEPAM avant qu'on en arrive justement au procès, parce que sinon l'étape d'après c'est saisir la commission de recours amiable, et s'ils disent non, et souvent ils disent non, après c'est d'aller au tribunal, voilà. Et avant il y avait le tribunal des affaires de la sécurité sociale, alors ça pouvait encore fonctionner, on en a fait quelques-uns dans les années 2010 là, mais finalement maintenant que c'est passé au tribunal de grande instance, c'est devenu, c'est terrible, c'est des délais terribles, aucune femme n'a envie de voir ses indemnités de congé maternité au bout de 3 ans de procès.
Tribunal, ouais.
Voilà. Donc en fait, sociale. On essaye d'éviter maintenant d'aller jusqu'au tribunal.
Affaires sociales, souvent, ça durait déjà 2 ans. 2 ans, c'était oui. Tu vois, un peu 2 ans. Mais là, maintenant, grande instance.
Donc on essaye de faire régler ça par médiateur, défenseur des droits. Voilà.
Ce qu'il faut dire aussi, le dernier truc qu'il y a aussi, c'est que bah, du coup, il n'y a pas de caisse différenciée non plus. Alors peut-être que ce serait une solution d'avoir une caisse pour, enfin, ou des gens qui traitent spécifiquement des travailleurs discontinus, mais on est très, très sujet, mais que ce soit de la part des directions. Malheureusement, ou des employés aussi, de se dire que globalement, un congé maternité, quand il est indemnisable, alors je vous avais dit le plafond, mais comme pour tout congé maternité, va jusqu'à 89 euros, d'accord ? Le salarié, il a une subrogation, c'est-à-dire que le salarié continue, il a une subrogation, c'est-à-dire qu'il touche la même chose que son salaire pendant son congé. Mais effectivement, vous allez me dire par là, un intermittent, bah, si on divise bien qu'il a été indemnisé comme il faut par Pôle emploi pendant tout le temps et tout, bah, on divise son salaire par à peu près le nombre de jours, un peu plus, et du coup, bah, c'est à la hauteur de ce que vous touchez par jour quand vous travaillez. Donc, on touche plutôt un peu plus que la moyenne des salariés qui travaillent au SMIC tous les mois. Et ce qui donne aussi le fait que beaucoup d'agents refuse d'appliquer les lois parce qu'ils se disent c'est dégueulasse.
On est des privilégiés.
On a un petit florilège là, mais des trucs, mais qu'on a entendu juste dans le dernier mois à ce propos, c'est-à-dire que vous avez, voilà, donc ça, sécu des indépendants. Ah oui, mais madame, fallait réfléchir avant de choisir ce statut, fallait faire des économies. Vous êtes seule, non ? Ah bah, ça va, il y a pire que vous. Bah oui, c'est scandaleux, mais vous écrivez à Macron, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais enfin, madame, un enfant, ça se planifie. Il y a le cas, tu vas nous parler du cas des Bouches-du-Rhône, peut-être.
La personne de la CEPAM s'est énervée au bout du téléphone en disant mais que vous, les intermittents, puis elle a dû parler des matermittentes, vous êtes la bête noire de l'administration, vous êtes des privilégiés, le calcul de la circulaire est injuste vis-à-vis des vrais salariés qui travaillent toute l'année. Voilà, c'est pour ça qu'on vous applique ce nouveau calcul. Nouveau calcul qu'elle avait inventé. Hein.
Annulé.
Voilà, c'est celui qui... Voilà.
Mais en tout cas, après que la circulaire ait été annulée, c'est-à-dire que tu as des CPAM, tu as l'impression que les directeurs d'agence se sont dit « Comment ça ? Ils ont annulé cette circulaire nationale interne illégale, bah c'est pas grave, nous on va l'appliquer quand même, parce que de toute façon c'est dégueulasse qui touche trop, quoi. » Ok, merci. Voilà, vous êtes intermittente, fallait y penser avant de faire un enfant. Alors, et je vous raconte pas le cas de la pauvre Bulgare qui a eu des triplés. Alors là... Donc elle, on lui a carrément dit qu'il fallait qu'elle aille faire calculer ses droits en Bulgarie alors qu'elle est intermittente depuis 5 ans et en France et mariée.
Donc on est obligé de surveiller, de contester, de réclamer pour juste obtenir une application des règles et l'application des droits.
Au rendez-vous au prochain épisode pour entendre la conclusion de cette conférence.
Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion, Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Matermittentes. Merci à la CIP42 pour les enregistrements audio de l'intervention à Saint-Étienne et l'organisation de la rencontre. Merci à Epsilus pour le générique et la création musicale, à Pierre Jérôme pour le mixage et à Olivier pour le graphisme de notre visuel, ainsi qu'à toutes les personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle. Léa, Mali, Benjamin, Caroline, Carmen, Oscar et Ambre. Rejoignez-nous sur www.matermittente.com.